bon pour la santé.
C'est un comédien qui soutient souvent par cette voix riche qui double les acteurs américains et qui peut porter les accents d'Italie. C'est aussi un réalisateur qui a de l'expérience. Il a du cœur et du métier à revendre. On accueille André Umbraccio. Vous vous rappelez de lui comme le patron Luigi dans Annie et ses hommes, rôle d'ailleurs pour lequel il a reçu un prix d'interprétation. Et peu de gens savent qu'en plus d'être souvent dans la lumière à l'écran, il réalise à la télé notamment la mythique émission pour jeunes ados à Télé-Québec, le Club des 100 watts.
Ouais.
Parmi ses bouleversements en santé, André Umbraccio a dû faire avec un cœur arythmique. Et il a fait comme beaucoup d'entre vous, il a cessé le tabac. Mais la maladie qui l'a particulièrement touché en est très mal connue. Un proche a longtemps eu des kyrielles de diagnostic pour finalement apprendre qu'un de ces mots était la douance. Est-ce que les sourdoués ne passent pas pour autre chose? C'est une question qu'il va porter avec nous aujourd'hui. On reçoit cet homme qu'on a l'habitude d'entendre et qui va parler aujourd'hui des super 100 watts, André Umbraccio.
Eh bien,
ici, ici Catherine Bourderon avec le docteur
François Barvel.
Et on plonge dans l'univers de André Umbraccio. Bonjour André.
Allô.
On va faire une émission aujourd'hui à partir de vos préoccupations santé. On accueillera pour ce faire les chroniqueuses et invités. Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, qui va nous aider à ne pas prendre de poids lorsqu'on arrête la cigarette.
Ah, là, ça, j'ai bien hâte de l'entendre.
Ouais, elle est très efficace. Mali Pradicic, naturopathe, qui, elle, va nous soutenir lors de cet arrêt tabagique. Et aussi Patrick Babi, du club Massa et du Triple Middle Société, pour parler de douance.
Eh oui.
Bonjour Patrick.
Bonjour. Bien content d'être avec vous.
Alors, bonjour André.
Hello.
Alors, avant de devenir comédien, le comédien qu'on a vu dans Omerta, vous avez fait Annie et ses hommes. On vous a même vu récemment dans Yamaska, la télévision. Votre premier emploi, ça a été d'être intervenant en délinquance. Est-ce que vous vouliez aider les jeunes délinquants à devenir des 100 watts?
À l'époque, on ne connaissait pas les 100 watts. On a fait ça, tu sais, c'est dans des cheminements de jeunesse. J'avais été... mon père avait un plan de carrière pour moi de... il voulait que je rentre dans la police montée, j'avais été passer mon test, j'étais apte au service, mais tous mes amis s'en allaient en délinquance juvénile. Fait que j'ai tourné vers la délinquance juvénile, puis on était hyper naïfs dans ce temps-là. Là. On était payé 8 heures, puis on travaillait 16 heures, puis on peinturait les murs, puis on avait une... c'était une vocation.
Vous avez aussi eu le goût des arts plastiques, non?
Ben, j'ai enseigné un an les arts plastiques. Ça avait commencé justement en délinquance juvénile. J'avais créé des ateliers d'art. Puis l'année d'après, il y a un de mes amis qui enseignait au plateau annexe. Puis il cherchait désespérément les professeurs pour aller dans cette école-là parce que personne ne voulait le poste. Fait que j'y étais, j'ai adoré ça.
Et on est donc est-ce que l'art a eu un impact sur la santé?
Oui, je pense que ça va un avec l'autre. L'art, c'est une façon de s'exprimer, mais ça va permettre de laisser ressortir, je sais pas, autant de la beauté que de la frustration, que de surtout le transmettre aux autres. C'est toujours intéressant si tu montres un enfant de faire un cylindre. Ça, c'est la première chose, mais après, qu'est-ce qu'on fait si on a plusieurs cylindres? Ben, tu vois une réponse différente à chaque. C'est vraiment intéressant.
Oui, et puis, vous avez été producteur, réalisateur, fait de l'art plastique. On vous a vu dans Annie et ses hommes, et vous avez gagné d'ailleurs un Gémeaux grâce au rôle de Luigi, et je me rappelle très bien de cette scène dans ce téléroman où vous êtes mort d'une crise cardiaque.
Oh, oui.
Et j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. Et je me suis demandé, est-ce que le fait d'avoir joué le rôle d'une personne qui, en onde, meurt d'une crise cardiaque, est-ce que ça vous a un petit peu bousculé dans vos valeurs personnellement au niveau de la santé?
Non, les gens me demandaient plus la question pour... Je pense que j'avais commencé cette saison-là où je passais proche de mourir. On savait pas que j'étais mort à la fin de la saison d'avant. Et je commençais la saison, j'étais couché dans un cercueil. Fait que tout le monde pense qu'il est mort, mais c'est parce que je suis radin un peu. Fait que j'ai essayé des cercueils, parce que je suis sûr que ma fille ne m'en achètera pas un bon. Fait que non, la crise cardiaque, c'est l'auteur m'avait appelé, puis il voulait ça d'une façon précise, réaliste. Fait que quand il m'a appelé, l'auteur, je dis « Ou tu m'offres une série qui va être Luigi et ses femmes, ou je meurs. » Ah, ils disent « On va prendre la deuxième option.
» Mais vous avez aussi eu des problèmes de cœur, d'arythmie, non?
Oui, oui, oui. Mais j'ai toujours fait de l'arythmie, là, depuis.
OK, donc...
Jeune, ça arrivait, sauf que il y a quelques années, là, j'en faisais pour... sans aucune raison, je m'en allais en auto, puis ça mettait pas tout, la patate à part, comme ils disent. Dans l'ancien temps, quand j'étais jeune, mettons, quand tu étais en tournée de théâtre à travers le Canada, tu as dormi 2 heures, puis tu prends un cognac le matin avec ton café pour te remettre, tu peux faire de l'arythmie. Là, tu sais d'où ça vient.
Et comment vous avez réglé cette problématique?
Écoute, je me suis jeté en bas du pont Jean-Cartier.
Ah ouais?
Ça a réglé l'arythmie, mais ça a causé...
Mais vous avez du sang italien,
plusieurs...
en briaco, il me semble que bien.
Non, mais à l'Institut de cardiologie, j'avais été... j'avais ma carte, parce que dans le temps, on avait fait la publicité pour le club Epic. Fait que j'étais familier avec eux autres, ils nous avaient donné une carte, on allait faire de l'entraînement. Là, quand j'y étais, je leur ai compté, eux autres, c'était super simple, ils donnent une machine... Là, ben, il calcule le nombre de fois que tu as de l'arythmie. Il regarde la sorte d'arythmie. Tu es supposé porter ça une semaine. Mais après 3 jours, ils ont dit OK, on lève ça. Là, ben, ils se doutaient que c'était une partie dans le cœur qui a un court-circuit. Mais si c'est ça, ça prend 5 minutes. Si c'est pas ça, il faut que je cherche. Fait que ça a pris une couple d'heures, là, couché sur la table avec. Ils sont toute une équipe en arrière, assez formidable. Là. Puis tu peux pas bouger. Puis là, ben. Ils te mettent, ils créent l'arythmie pour essayer de la circuiter, co-circuiter dans le cœur. Mais donc, je savais pas que le cœur était sensible en dedans. Parce que quand ils l'ont trouvé, ils ont dit il brûle une place. Là, là ça a fait aïe aïe.
Ah bon?
Hein? Tu le sens, ma zang, je le sens. Fait que là, ils m'ont donné une petite piqûre que là, ils pouvaient, là, parce qu'ils savaient ce que c'était. Fait que, ils disent là, ah là. Je chantais rien pendant tout. Je chantais plus mon cœur.
Mais en parlant de maladie de cœur, justement, vous avez, y a des vous avez arrêté de fumer. On sait très bien que le tabagisme est mauvais pour le cœur. Donc, vous avez arrêté de fumer il y a 1 an. Comment ça s'est passé?
Écoute, j'étais écœuré.
Ah bon?
c'est pas compliqué. Moi, j'ai été 20 ans sans fumer. J'avais recommencé à fumer avec Omerta parce que moi, je faisais un rôle d'un tueur qui était... Le tueur transportait son cendrier, là, puis... Puis le réalisateur m'avait dit hey, fume pas à mon monde, là. Je vais voir qu'il n'y aura pas de trouble. Fait que c'était très difficile de fumer parce que quand tu fumes pas, surtout à 7 heures le matin, puis là, mes mesures, ta cigarette et tout, puis. Fait que là, écoute, à 7h15, j'étais assis, puis les filles m'épongeaient le front, là, parce que c'est de l'empoisonnement bien raide. Puis là, ben, je disais, mais je vais fumer 2 cigarettes par jour. Entre des journées de tournage pour pas être malade. J'arrêterai après le tournage. Et après le tournage, ça m'a pris un an arrêté. Après ça, j'ai recommencé après 6 mois. Après ça, j'ai arrêté 3 ans. Mais, tu sais, ma année, j'étais un être intense. Fait que j'ai pas de juste milieu. Mais le dernier coup, là, j'avais essayé les patchs. Tout. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, faut que ça arrête. Point. Fait que c'était un vendredi midi, il faisait beau sur la rue. J'ai dit, ben, je vais pas m'acheter d'autres cigarettes. J'ai jamais retourné m'acheter des cigarettes. Mais, pauvres autres autour de moi, j'étais un peu irascible. Mettons que j'étais plus sensible dans mes émotions.
Et donc, votre pensée a vraiment eu un impact sur votre envie d'arrêter de fumer?
Ah, c'était logique, c'était une décision. Je savais que j'étais pour rusher, mais c'était ça ma décision. Regarde, ça fait 1 an. Là. J'ai même réussi à fumer. Moi, j'étais un fumeur de base de cigares. Quand je vais à la pêche, je fumais des cigares.
Ça fait 1 an que vous avez arrêté?
Ça va faire 1 an au mois d'août.
Ah, c'est bien, ça.
Oui, oui.
C'est bien, ça. En fait, le principal moment pour pouvoir arrêter de fumer, c'est quand même d'avoir la notion que c'est toxique.
Oh oui.
Et que c'est notamment toxique pour le cœur. Parce que la nicotine est quand même un excitant, hein, faut bien le savoir.
Ouais,
c'est pas toxique en soi la nicotine, mais quand on a des prédispositions à faire une arythmie, comme vous avez fait,
ouais.
À ce moment-là, c'est dangereux. Et puis, il y a le goudron aussi qui donne...
Le bon goût.
Le bon goût et le cancer du poumon, quand même. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête, on essaie de s'arrêter. Et c'est donc, on prend conscience de la chose. Et c'est quand on a pris conscience de la chose, comme vous, qu'on arrive à s'arrêter, qu'on commence à vouloir s'arrêter et pouvoir s'arrêter. Et soit on a pris et le plus difficile, c'est de tenir l'arrêt du tabac.
Ah, oh oui. J'ai l'œil.
C'est pas facile.
Parce que le tabac, tu sais, t'as le goût de fumer. Moi, j'aimais fumer. Tu sors dehors, tu fais des rencontres sociales au bureau, tu fumes, c'est comme... Puis quand j'étais à Radio-Canada, même quand j'ai des périodes où j'arrêtais de fumer, je continuais à aller voir mes amis fumeurs parce que c'était comme un club social aussi. Sauf que, c'est comme un moment donné, j'ai été comme 5 ans pour boire d'alcool. Je dis, je vais continuer à boire, juste pas d'alcool. Fait, je continuais à sortir, à rencontrer des gens. Je voulais pas... Tu sais, il y en a qui disent, t'arrêtes de fumer, tu changes toute ta vie. Arrête de boire, tu changes toute ta vie. Non, tu veux juste pas de ça dans mes poumons ou pas de ça dans
c'est
le
ça.
Sang.
Oui, c'est ça.
Donc, notre invité, fort intéressant, nous parle du tabagisme du cœur. Mais après la pause musicale, il va nous parler de douance. Vous avez été ou vous êtes encore en interaction avec quelqu'un qui vous est proche, qui est un surdoué. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant d'être surdoué parce que lorsqu'on est avec cette problématique, en fait, c'est pas une problématique, mais lorsqu'on connaît quelqu'un qui est surdoué, on peut pas vraiment... On parle pas de diagnostic, on parle de traits de caractère, non? On sait pas comment déceler... Je sais pas, je vais prendre un verbe diplomate, ça serait quoi, docteur Barouel? On sait pas comment...
Diagnostiquer.
On peut dire diagnostiquer? Parce que c'est pas un trait de caractère, on met un diagnostic
non.
là-dessus?
Oui. Non, oui.
C'est un diagnostic.
Oui? Ah bon,
alors. Comme tu as dit, il y a une problématique. Et tu dis, c'est pas une problématique. Oui, c'en est une problématique. Pourquoi? Parce que c'est pas diagnostiqué, c'est... Tous les gens que je connais qui ont... Et les gens vont dire, je souffre de douance. Ils diront pas, je suis intelligent, je trouve que tout le monde, c'est des morons, tout ça. C'est, la part des gens, ils ont souffert de douance parce que la société n'est pas faite pour ça. Elle est vraiment pas conçue
mais
pour ça.
Qu'est-ce que ces gens ont? Ils sont hypersensibles, ils sont plus intelligents que la moyenne des gens. C'est quoi être surdoué?
Être surdoué, c'est avoir de la douance. C'est que pour toi, comprendre les choses, ça va aller tout seul, tu sais. Mettons, il y a des gens qui vont boucher sur un problème mathématique, toi, ça va être d'une simplicité rare. La même chose aussi au niveau des langues. Fait qu'à l'école, ces gens-là sont souvent diagnostiqués, déficit d'attention. Ils trouvent ça plate, là, le cours, parce qu'ils vont regarder par la fenêtre, parce qu'il a compris, il ne répète pas 20 fois, là. Fait que c'est des gens qui vont dire « Ah, ben, il fait du déficit d'attention, il fait ci, il fait ça. » Tu sais, puis avec ça, la plupart des gens qui ont de la douance vont aussi avoir une sensibilité...
Exacerbée.
Oui, c'est ça. Mais des fois, on pense que c'est des gens qui ont un problème de TDAH. C'est vraiment mal diagnostiqué. Comment
c'est
on fait,
deux choses. C'est deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des TDAH qui sont, en fait, simplement TDAH.
Ouais.
Mais il y en a beaucoup, et ça demande des examens supplémentaires. D'ailleurs, c'est le cas de votre ami que vous connaissez, et ça demande des examens supplémentaires pour savoir s'il a un QI supérieur à 130, par exemple, ou qui atteint 130. Et c'est ça la question, en réalité. C'est qu'il y a beaucoup de surdoués qui ont un TDAH, Il reste TDAH. Alors, ah oui, mais il y a aussi des TDAH qui ne sont pas surdoués.
Oui, oui.
Ah, c'est non, pas absolument. Simple.
Ah non, 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 c'est difficile. Mon ami en question, c'est, il allait voir la psychologue, puis à un moment donné, il se doutait, là. Fait, il a demandé, il a fait moi donc passer un test d'avoir le cœur net. Il s'est mis à péter des scores, là. Il y a des triples neuf ou des choses comme ça. Fait que c'était soulageant pour cette personne-là de pouvoir mettre un nom.
C'est ça.
Sur qu'est-ce que tu dis. Ah, regardons ça.
Donc, en conscientisant la personne sur son statut, ça la libère en quelque sorte.
Oui, puis il a même été, je me souviens, un tel voyage en Europe. Il disait aux gens, retrouvez-vous telle place en Europe. Comment on va faire pour se reconnaître? Vous allez vous reconnaître.
Ah oui. Et accompagner quelqu'un qui est aux prises avec cette problématique, est-ce qu'il y a comme des dommages collatéraux? Comment vous l'avez vécu, vous?
Je connais pas juste une personne, j'en connais quelques-unes. Moi, nous autres, les embriacos, famille de fuckés. Ben raide. Fait que t'es à un moment donné, c'est ressorti dans la famille les occupations des gens de. T'sais, moi j'ai un cousin, entre autres, qui était quand il était jeune. Bon, ce gars-là sera jamais sportif parce qu'il fait de l'as. Ben, à un moment donné, on dit ben arrêtez là. Il va faire du sport, tout ça. Fait qu'il est passé par-dessus l'as, mais il dit hey, ben ça va faire un méchant joueur de hockey. Mais ah oh non, mais il fera rien, il est pas intelligent. Là. Parce que il faut que l'énergie sorte. À un moment donné, mais en fait, aujourd'hui, c'est un psychanalyste. Là.
mais vous avez été déçu, hein? On entend que vous avez été déçu par les hôpitaux, par les médecins.
Ah, c'est un. Le docteur, vous en parlez plus que moi, parce que regarde, c'est un. Le système est pas fait pour ces gens-là. Le système est vrai. Tu sais, comment je pourrais dire ça? En médecine occidentale, au niveau de la mécanique, vraiment, là, chapeau. Tu sais, ils sortent, prennent quelqu'un, là, changent le cœur, les poumons, là, tout d'une shot, pèsent sur le piton, repartent ça, puis regarde, chapeau. Au niveau de l'électronique, c'est d'autres choses. C'est un autre niveau, là. Puis aussi, écoute, j'en ai contre les pharmaceutiques, là, ça, c'est...
J'ai compris, les femmes.
Non, pas les femmes.
Les pharmaceutiques.
Les pharmaceutiques, je vais bien prononcer. Parce que si mes ex m'écoutent, là, j'ai encore une action en cours. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est que... J'ai un frère qui est docteur en neurobiologie, il est acupuncteur, puis lui... Dans nos discussions, il dit, écoute, faut pas... Lui, il est enseignant en médecine. Tu peux pas en vouloir au médecin. C'est ça qu'il a appris. Tu sais, tu tournes la page, t'as telle maladie, c'est telle pilule, telle maladie, tel médicament. T'sais. Ça marche comme ça. C'est pas... Il y aura pas d'approche comme... Tu sais, puis dans le même pays, à Vancouver.
Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous aimez l'idée de plus avoir de stress et vous faites aussi du Scrabble. Hein? Vous faites du Scrabble, c'est une petite pause santé que...
C'est un vice.
Oui.
C'est un vice?
Ah, le Scrabble, c'est un vice. Tu commences ça, moi. J'adore ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec les téléphones, là, j'ai des amis avec qui on joue régulièrement, avec lesquels je vais jouer. Puis, il y en a un, là, on a toujours 5 parties simultanées, un autre 3. Des gens bien variés, là, tu sais, comme comptable à retraite, un moine, pas tibétain, là, mais c'est bouddhiste. Il y a de tout. Mais c'est bon aussi pour le stress. Et ça désennuie. C'est bon aussi pour faire marcher le cerveau. Fait que s'il y en a qui sont amateurs de Scrabble, allez voir sur Facebook. André Mriaco.
Ah oui?
Donc, vous gérez votre stress, vous gérez votre santé, du moins. Vous avez réussi à arrêter de fumer. Et on va voir maintenant, après la chanson. Comment ne pas gagner de poids lorsqu'on arrête de fumer avec notre nutritionniste en résidence, Claudine Larivière. Et aussi avec une petite pause santé, avec un aspect ludique, le Scrabble que vous aimez bien. C'est bon pour le cerveau et l'apprentissage.
Sur mon big wheel, Stéphane.
Bonjour Claudine.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Et vous, très bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Ouais, j'imagine quand on est nutritionniste et spécialiste de productivité humaine, on ne peut pas faire autrement. Donc on est avec Claudine Larivière.
Oui.
Vous allez aujourd'hui nous parler de cet arrêt du tabac qui est une très bonne chose pour la santé, bien sûr, mais son ami qui est un petit peu trop souvent la prise de poids. Alors,
oui,
la question, c'est pourquoi est-ce qu'on prend du poids quand on arrête de fumer?
Oui, ben en fait, c'est une bonne question. On me la pose souvent. Il y a plusieurs raisons. En fait, la première raison, c'est que normalement, les gens vont essayer de trouver une nouvelle habitude pour combler ce manque qui est de fumer. Et les gens vont donc commencer à mastiquer ou grignoter sur des aliments pour que justement ça les occupe. Hein. Ils ont vraiment l'habitude de toujours se mettre quelque chose dans la bouche. Donc la nourriture, c'est quelque chose qui va être très pratique pour remplacer ce comportement-là. Donc les gens vont avoir tendance à manger plus. L'autre chose, c'est sûr que souvent on va fumer après un repas. Mais là, ça se fait pas. Cette routine-là, elle est brisée. Donc, les gens vont rester à table plus longtemps, vont avoir tendance aussi à manger plus qu'ils faisaient quand ils ont arrêté de fumer. Puis, on commence à redécouvrir les goûts aussi, parce que là, les cellules se régénèrent, en fait, dans la bouche. Donc, on commence à prendre plus goût aux aliments parce qu'on peut les goûter beaucoup. Et là, c'est sûr que je parle de façon générale. C'est pas tout le monde qui expérimente les mêmes symptômes, mais ça se ressemble beaucoup. Puis, finalement, la dernière raison, c'est la nicotine, c'est une composante qui va accélérer notre métabolisme. Donc, notre corps va se mettre à brûler plus d'énergie, à ne rien faire, que s'il le fait s'il n'est pas sous l'activité de la nicotine. Donc, quand on arrête de fumer, on n'a plus cette nicotine qui va vraiment accélérer tout le rythme de notre corps et on va brûler moins d'énergie, mais on ne va pas nécessairement changer la quantité d'aliments qu'on va consommer. Donc, en brûlant moins d'énergie,
mais en grossissant
la même. Exactement.
Mais il y a un bilan positif en termes de calories.
Oui, exactement. Il y a un bilan positif de santé, mais.
Ouais. Non, je veux dire qu'en fait, finalement, comme on mange toujours autant et qu'on s'épuise moins, on se dépense moins, on garde plus de calories qu'on en sort.
Exactement. Ouais. Même situation quand, justement, on parle de la masse musculaire, c'est un peu la même chose. La masse musculaire va activer notre métabolisme. C'est sûr que c'est plus positif que la nicotine, mais c'est dans la même situation. En fait, c'est que plus on a de la masse musculaire, plus on dépense de l'énergie. Mais si on perd notre masse musculaire, soit parce qu'on a arrêté de s'entraîner ou on s'est brisé une jambe, on ne peut plus bouger autant ou peu importe, ben là, notre métabolisme va ralentir par la perte de masse musculaire, mais on ne va pas nécessairement ajuster notre nutrition en fonction de ça. C'est souvent ce qui va arriver dans ces situations. Ouais.
C'est ça. Est-ce qu'une alimentation pourrait quand même, enfin saine, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'une alimentation saine qui évite de prendre du poids? Est-ce que vous n'avez pas un truc, un secret?
En fait, Dr Barreux, l'alimentation saine, elle est pareille pour tout le monde. Hein. Les principes de base vont rester les mêmes. Le problème, c'est que quand les gens vont arrêter de fumer, ils vont pas nécessairement. Certaines personnes vont faire des changements de vie de façon générale, donc ils vont améliorer leur alimentation, ils vont devenir plus actives. Mais souvent, c'est pas la première chose dont on va penser. Ah, faudrait aussi que j'améliore mon alimentation parce que je peux pas juste commencer à manger plus sans regarder la qualité alimentaire, puis sans regarder les apports aussi. Donc, c'est une question de rééquilibrer l'assiette, réintégrer beaucoup de fraîcheur dans l'alimentation. S'assurer qu'on mange des aliments qui nous apportent d'énergie, mais pas trop non plus. Donc, d'avoir vraiment un bel équilibre dans son assiette. Manger des fibres, manger coloré aussi pour aller chercher plein de beaux antioxydants qui vont aider à réparer le corps. Parce que, tu sais, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Quand on fume, quand on est fumeur, fumeuse, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress et de composantes chimiques qui est imposée à notre corps. Donc, c'est sûr que
dans
c'est pas la meilleure.
Dans une cigarette, il y a 4000 composés chimiques dans une cigarette.
Donc, l'alimentation, ben, c'est ça. Si on veut quelque chose qui va être vivant, quelque chose qui va être coloré, quelque chose qui va être très varié pour justement apporter le plus de nutriments possible qui va permettre la réparation de ces tissus. Ouais.
Et quels sont les médicaments, parce que vous êtes nutritionniste, mais les aliments qui vont nous permettre de guérir les tissus un peu abîmés.
Bon lapsus, François.
moi, je peux porter tous les chapeaux.
Je vous connais bien.
Non, mais en fait, c'est ça, c'est beaucoup de miser sur les antioxydants, donc le pouvoir des vitamines et minéraux, de façon générale, vont avoir l'effet de vraiment protéger l'organisme. Donc, c'est d'aller chercher des nutriments qui vont justement être dans des aliments très colorés. C'est pour ça que je parle beaucoup des fruits et légumes aujourd'hui, parce que c'est surtout dans ces aliments-là où on peut aller chercher une belle variété de couleurs. Il va y avoir aussi la vitamine C qu'on connaît bien, qui est aussi un antioxydant, mais qui aide beaucoup, beaucoup à réparer les cellules. Donc, on peut prendre des suppléments en vitamine C. Et il y a aussi également la vitamine B12 qui est très mal absorbée quand on est un fumeur ou quand on est une fumeuse.
Ouais,
et à ce moment-là, une supplémentation, là, quand on décide de... C'est sûr qu'une supplémentation peut être nécessaire pendant, même si on n'a pas encore entamé le processus d'arrêter de fumer. Mais ça va être beaucoup mieux si on arrête de fumer et là, on peut refaire ses réserves en s'aidant d'une supplémentation.
Ouais, très
donc,
bien.
Puis c'est sûr qu'il faut se tenir loin aussi des composantes qui vont permettre de diminuer cette absorption-là. Donc, quand on parle d'alcool, caféine, il y a un petit bémol aussi à ce niveau-là. Il faut faire attention.
Très bien. Ben, merci beaucoup. Je voudrais aussi rajouter une chose, c'est qu'il est peut-être utile simplement de retrouver la sensation de satiété lorsqu'on mange, c'est-à-dire qu'il faut manger plus lentement, il faut mâcher les aliments longtemps et il faut tout le temps au cours du repas se demander à quel niveau on est le système de la satiété. Quand on atteint le système de la satiété, il faut s'arrêter. Quand on n'a plus faim, il faut s'arrêter.
Excellent point. Et parce qu'on perd complètement la connexion justement avec nos cellules parce qu'elles ne sont pas en très bonne santé. Donc, c'est de tout refaire la reconnexion, si je peux dire comme ça, là, de se reconnecter avec notre corps, les signaux qu'il nous envoie pour vraiment mieux s'alimenter puis retrouver la santé. Absolument.
Merci beaucoup, Claudine Larivière. C'est toujours très passionnant ce que vous nous dites. Hein.
Ça me fait plaisir,
je rappelle que vous êtes nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Stéthoscope.
Stéthoscope, c'est un moment où on ausculte pas seulement le cœur du patient, mais où on écoute un article ou des conseils de la santé sociale ou psychologique. Et dans ce cas, même pédagogique. Notre invité, André Umbriaco, est féru de Scrabble et on vous propose des éléments de cet article. Usage pédagogique du Scrabble par Roland Helbert. 150 élèves de 9 à 18 ans dans une vaste salle. Table alignée, place numérotée, silence total. Une attention à combler d'aise le plus exigeant des enseignants. Penchés sur leurs notes, les élèves écrivent, réfléchissent, raturent. Quand l'affaire sera terminée, tous ne parleront plus que d'accords réussis, de conjugaisons oubliées. Tu crois qu'il y a un H ? Tandis que bruisseront d'un groupe à l'autre des mots comme ataraxie, disculpé, kiwi ou zygoma. Examen, concours, point. Vous venez d'assister aux épreuves du deuxième championnat de France scolaire de Scrabble. Le Scrabble, tout le monde connaît, comme les mots croisés. Nous avons tous un jour ou l'autre cherché à caser un Y récalcitrant, un W encombrant, tandis que grandissait en nous une question angoissante du genre « Voyons, la séismicité, ça existe ? Et combien y a-t-il de T à yttrium ou yttrium ?» Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que parmi les quelques millions de scrableurs et de scrableuses que compte le pays, un certain nombre, qui sont par ailleurs enseignants de français ou de langue étrangère, ont choisi d'utiliser ce jeu pour aider leurs élèves à mieux maîtriser le français. Plusieurs d'entre eux accompagnent des élèves à Haguenau. Pour les avoir rencontrés, je puis témoigner que leur première préoccupation n'est jamais la compétition. Celle-ci, même très officiellement organisée par la Fédération française de Scrabble, n'est qu'un aspect de l'ensemble. Leur première motivation est clairement pédagogique et de ce fait, elle mérite qu'on s'y arrête. Et ensuite, il continue en expliquant que le Scrabble en lui-même permet d'apprendre les mots français, de découvrir les mots français, surtout pour des enfants qui n'en ont pas vraiment l'habitude, parfois, et aussi de redécouvrir le dictionnaire tel qu'il était autrefois avant Google, c'est-à-dire un objet dans lequel on se perd, on se promène, et dans lequel on tombe de mot en mot, d'illustration en illustration. Ça permet d'apprendre les mots, ça permet d'apprendre leurs définitions, et les professeurs cherchent non pas une accumulation de mots, mais une accumulation du sens des mots et de leur articulation pour former des phrases et pour former des concepts. C'est une manière de voir les choses, de voir le Scrabble, qui est ludique et qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Parce que d'habitude, on cherche toujours à faire les mots les plus longs avec le nombre de points les plus importants. Pour eux, ce n'est pas ça. Pour lui, pour ce journaliste, Roland Helleher, c'est placer les bons mots, apprendre à utiliser des mots selon la grammaire, selon un thème ou selon l'orthographe. Donc je rappelle que cet article est tiré de « Usage pédagogique du Scrabble dans l'information grammaticale ».
Et sans aucun doute, pour chacun d'entre nous, passer entre les gouttes au premier rendez-vous, ça veut dire quelque chose, un signe du destin, juste comme une pause qui serait sans témoin. Et dans chaque ville, quel que soit le temps, je, tu, elle ou ils vont indifféremment revivre au présent tous les moments passés. Rempli de souvenirs, de moments de gaieté, une main dans une autre, un sourire volé et un baiser perdu à l'angle d'une rue. Et sans aucun doute, pour chacun d'entre eux, il y a plus d'une route pour devenir heureux, sans comprendre grand-chose de ce qu'on fera demain, si simplement on ose en mêler nos chemins. Quelle était cette ville et où était le temps, où elle était-il et réciproquement, tous ces moments passés à tellement se sourire. S'aimer aux quatre vents, se raconter, se dire, les yeux dans les yeux, deux vers s'entrechoquant, noyés de nostalgie, passés en se buvant. Et sans aucun doute, pour chacun d'entre nous, passer entre les gouttes au premier rendez-vous, ça veut dire quelque chose, un signe du destin. Juste comme une pause qui serait sans témoin. Et sans aucun doute, pour chacun d'entre nous, passer entre les gouttes au premier rendez-vous, ça veut dire quelque chose, un signe du destin. Juste comme une pause qui serait sans témoin.
Alors, nous sommes en studio avec Patrick Babi du club Mansa et du Triple Middle Society. Il vient nous parler de douance. Bonjour Patrick.
Bonjour.
C'est quoi être un surdoué? Vous êtes surdoué?
Oui, c'est à ce qui paraît. En fait, c'est bêtement, mathématiquement, selon les tests reconnus de quotient intellectuel comme le WAIS, qui est le Wechsler Adult Intelligence Scale. Il y a plusieurs éditions, mais selon ces classifications-là, 50% de la population est à 100 de quotient intellectuel et c'est pondéré comme une cloche. Donc, vers les deux extrémités, bien entendu, la courbe descend. Et les écarts-types sont comptés par 15 points. Donc, le seuil de ce qu'on appelle l'intelligence supérieure est à 130, donc à deux écarts types de la moyenne. Et à un écart de plus, on appelle ça THQI, très haut quotient intellectuel. Donc, à partir de 130, vous pouvez faire partie de ce qu'on appelle le club Mensa.
Donc, est-ce que vous me suivez depuis tantôt? Je parle. Il y a des préjugés. Non, il y a des préjugés. Bon, lorsqu'on on voit vraiment, c'est des gens qui ont un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Est-ce qu'il y a des préjugés? Est-ce que lorsqu'on sait que la personne en face de nous est surdouée, est-ce que l'interlocuteur ou... c'est quoi les préjugés?
Bien, ça a changé. Il y a des choses qui changent. Parce que moi, je me trouve à trois écarts types. Donc, au-dessus de 145. Et...
C'est THQI.
Oui. Donc, Mensa, c'est le 98e percentile, c'est 2 personnes sur 100, donc 1 personne sur 50. À partir de 145, on tombe dans 0,1% de la population, d'où le nom de Triple Nine Society pour 99,9. Ne vous étouffez pas, ça va aller.
Je suis impressionné.
Mais c'est justement le problème, c'est qu'éventuellement, la beauté, quelqu'un dit « je suis beau », on peut constater... critiquement ou pas, on peut dire oui ou non, on peut trouver que cette personne-là se prend pour ou etc. Mais de dire que je suis intelligent ou je suis plus intelligent que la moyenne, c'est controversé. C'est bon, c'est pas un but dans la vie non plus, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé, je suis né comme ça. Je faisais des phrases complètes à 18 mois, puis je comprenais des concepts qui étaient pas de mon âge. Mais je compte sur mes doigts. Mathématiquement, je suis une pioche. Donc, c'est pas nécessaire. Les gens s'imaginent qu'on connaît le dictionnaire par cœur ou que justement, on est capable de faire des équations du troisième degré en première secondaire. C'est pas toujours le cas. En fait, c'est une question... Moi, j'aime présenter ça comme une question de logiciel. On est des Mac dans un monde de PC. Pour aller vite, parce qu'on a seulement 10 minutes, vous ferez les nuances vous-même à la maison, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai pas le temps. Donc, ce qu'on dit, c'est... Il y a deux formes. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Siaud-Fachin, qui est une psychologue française qui travaille beaucoup avec ce qu'elle appelle les zèbres. D'ailleurs, c'est elle qui a inventé le terme. Et c'est surtout une question de logiciel, comme je le disais. Donc, la plupart des gens sont ce que Siaud-Fachin appelle des normaux pensants, c'est-à-dire A, B, C, D, et il faut suivre la logique et le développement logique d'une chose pour arriver éventuellement à Z. Ce qu'elle appelle les zèbres, on a un logiciel différent, c'est-à-dire, elle appelle ça la pensée en arborescence. Il y a une idée qui se forme, et de cette idée-là vont partir toutes sortes d'autres idées qui vont former elles-mêmes des bulles, et là, ces bulles-là vont s'interrelier les unes aux autres. Ce qui fait que, moi, je peux partir de A, me rendre à F, revenir à B, sauter à T, et redescendre, et tout ça... Quand vous voyez deux personnes surdouées qui parlent ensemble, c'est des gens qui vont ouvrir 22 parenthèses, qui vont finir par les refermer et qui font des associations d'idées qui sont pas nécessairement évidentes. Mais c'est une question de traitement et de rapidité de traitement de l'information. C'est tout.
Mais Patrick, donc le club Mensa, il y a aussi Triple Middle Society.
Triple Nine.
Triple Mind, OK.
Nine, comme 999.
OK, 9-9. OK, est-ce que, donc ça, c'est, par exemple, dans le Club Mensa, je sais que ça existe depuis le siècle dernier. Ces mouvements-là, qu'est-ce que vous faites dans ces clubs-là?
En fait, Mensa a été fondé à la base avec de bien nobles intentions, c'est-à-dire de réunir, sans égard à la classe sociale ou aux revenus ou à ces choses-là, à l'origine des personnes, de réunir autour d'une table les gens, entre guillemets, les plus intelligents de la société pour en régler les problèmes. Visiblement, on n'a pas réussi. Mais, en fait, étrangement, à ma première réunion du Club Mensa, j'avais l'impression qu'il allait se dire bien des niaiseries, et c'est beaucoup ce qui se passe. C'est-à-dire que...
Vous êtes combien?
Oh, ça dépend. J'ai assisté à une réunion qui s'appelle le European General Gathering de la 999 Society, donc la réunion annuelle générale européenne. On était 22.
Ah oui?
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 22 999 en Europe. Il y a des gens qui sont bien ajustés il y a des gens qui vont passer leur test chez Mensa juste pour avoir une carte dans les poches puis écœurer leur beau-frère à Noël. Mais c'est des gens qui sont tout à fait plus... Dans les relations sociales, un écart d'une vingtaine de points, on est dans une bonne zone. Donc, quelqu'un qui est à 130 peut très bien interagir avec des gens qui sont autour de 100, 105, 110, jusqu'à 150. Donc, ça va. Mais quand toi, t'es à 100, au-dessus de 145... L'écart de 45 points, c'est comme si vous prenez une personne qui est à 100 points et vous la mettez avec des gens qui sont pas loin du coma.
Ah, je comprends. Compagnie.
Mais c'est une...
Mais c'est comme le décibel?
C'est très touchant.
Presque.
Mais Patrick, la question que je me pose, est-ce que vous vous intégrez, est-ce que vous vous intégrez bien dans la société? C'est quand même une particularité d'être ainsi.
Ben, en fait, moi, j'ai appris à 42 ans que j'avais un système de traitement de l'information un petit peu particulier. J'ai eu une carrière scolaire absolument atroce. Ça s'est pas bien passé du tout. Même ma formation d'acteur, je me suis promené, j'ai fait 4 écoles, dont 2 m'ont remercié. Donc, l'intégration sociale est pas toujours facile. Mais à partir du moment où je sais que c'est moi qui ai un système de traitement étrange, ben c'est à moi de m'adapter dans une certaine mesure. Mais ça veut pas dire qu'on est 8 en haut d'une montagne à découper la tombe par la pensée, là. La plupart du temps, comme je vous dis, quand je suis arrivé à ma première réunion de Mensa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes les blagues que les gens comprennent pas. Mais c'est pas nécessairement de l'humour pointu et très sophistiqué. Des fois, c'est juste un pet de cerveau qu'on appelle, mais il faut avoir soit la référence culturelle, soit la tournure d'esprit pour aller la chercher.
Est-ce que vous avez une blague?
Un de mes plus grands moments de solitude mentale, j'étais avec des amis dans un camp de pêche, etc., et il y en a un dont la mère était venue, elle rentre dans le chalet et elle dit « Ah, c'était magnifique, on a vu 2 hérons. » Et moi, tout de go, de sortir « Ah, il ne manquait qu'un petit patapon. »
Ah, oh, ben c'est mignon.
Ben oui, mais on m'a répondu par une mère de criquet. Mais... Là, j'ai dit « Ben, hérons, petit patapon.
Oui.
Non, ça, bon, ça on s'entend que c'est pas...
Je t'aurais jamais ramené à la pêche.
Je m'aurais jamais rappelé, je sais.
Jamais.
Mais on s'entend que c'est pas de la haute voltige, mais juste un petit coin de bouche de « innocent ». C'est parfait, on se sent entre nous. Puis quand André parlait tout à l'heure, effectivement, moi, la première réunion, quand je suis allé voir les 999 en Europe...
Il y avait combien de petits patapons?
Il y en a plusieurs. Oh, ce n'était que du patapon. On se roulait dans le patapon, c'était magnifique. Moi, j'avais jamais rencontré ces gens-là, donc j'avais vu la photo d'un ou deux. Mais bon, au musée où on s'est rencontrés, effectivement, je ne savais pas qui était qui. Et juste en scannant les gens alentour, puis en regardant, ah, comme par gravité, on a fini par se retrouver les uns avec les autres. Parce qu'il y a une tournure d'esprit, il y a quelque chose...
Mais est-ce qu'il y a un avantage à être surdoué? On a parlé de la discrimination. Est-ce qu'il y a un avantage?
Ben, j'ai des moments de grand bonheur, mais ça se passe souvent tout seul, malheureusement. Mais de jouer avec les concepts, avec les idées, de comprendre certaines choses, d'associer des choses ensemble. Et le grand bonheur, c'est quand effectivement on se retrouve, entre guillemets, entre nous et... Des fois, on a des conversations à bâtons rompus sur 52 sujets. On fait des associations étranges et
mais
tout ça.
Mais est-ce que vous intégrez des fois des gens comme nous, là?
Mais la okay. Plupart de mes amis...
Ils amènent jouer au quai.
Voilà. Mais encore là, ça a l'air un peu péteux, mais c'est une question d'intérêt.
Ouais.
Moi, je joue pas au Scrabble. Bon. Okay. Alors, si André se retrouve avec des gens qui jouent au Scrabble puis que moi, je joue pas, ça se peut que je sois un petit peu moins intéressé. J'ai un ami qui a une théorie très intéressante, il appelle ça la théorie des billes. Il dit « Chacun vient au monde avec un petit sac de billes. On n'a pas tous le même nombre de billes et on fait pas tous la même chose avec. Mais par gravité, on finit toujours par se ramasser avec des gens qui ont à peu près le même nombre de billes que nous dans notre sac. Pourquoi? Parce que si tu as 3 billes puis que l'autre en a 10, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou il n'y en a pas un qui a une valeur plus que l'autre. Mais les deux vont s'ennuyer.
C'est
juste comme ça. Donc, généralement, tu finis, t'arrives dans une soirée, puis là, tu t'évalues un peu, tu soupèses les sacs de billes, puis comme par hasard, on finit toujours par se ramasser 2-3 sur le bord de la fenêtre à jaser de ceci, cela. Et en fait, l'avantage principal, c'est que la majorité des surdoués sont des généralistes. C'est-à-dire qu'on est des gens qui s'intéressent à une multitude de choses différentes. Moi, je fais des blagues souvent, mais je dis « j'en sais juste assez sur juste assez de choses pour donner l'impression que je sais tout. » Mais c'est juste une impression. Voilà. Donc, je suis capable de discuter à bâton rompu de situations internationales, de médecine, d'astrophysique,
C'est l'insatiable curiosité.
Mais
ça.
Voilà, mais tout oui, m'intéresse. Et la meilleure chose là, dans ça, c'est que quand tu es un généraliste et que tu as besoin d'un spécialiste, tu as juste à aller en chercher un.
On appelle Dr. Baruel à ce moment-là.
Ben voilà.
Merci beaucoup, Patrick Babi.
La chose, là, si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment surdoué, là, c'est les énigmes à tiroir. C'est une horreur que tu ne maîtrises parfaitement. Je ne comprends pas que quelqu'un peut avoir un cerveau qui puisse résoudre un énigme à tiroir. Alors, la semaine prochaine, Subaby va vous faire une énigme à tiroir. Assoyez-vous.
On piaffe de patience. Hey, merci.
10 minutes, c'est très court pour faire le tour d'un sujet comme celui-là. On parlait de TDA tout à l'heure.
On va vous inviter, ça, c'est clair. Alors, merci beaucoup, M. Babi. Rappelons que vous êtes membre du Club Mensa, du Triple Nine Society. Vous êtes comédien. On entend vos voix un peu partout. Merci pour ce très beau témoignage.
Merci de m'avoir invité.
Et si les heures s'écoulent encore, pour moi qui me lève au matin, si le soleil épouse mon corps, je ne remercie personne. Personne ne vivre un jour de plus, de me gaspiller à temps perdu. Me perdre si l'idée m'en vient, sans anxiété ni pharmacien. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi, c'est comme de la béatitude pour tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. Comme de la béatitude. Et puis j'ai pleuré ce petit moi qui m'a quitté sans me saluer. Et puis du monde quel qu'il soit, qui en était l'amoureux dévoué. J'ai vu là tout mon désordre, tous les effets de mon tournis. Là où soi-même on se saborde, je sais que tu comprends mon ami. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi, c'est comme de la béatitude. Tout ce qui est autour de moi, ça fait de mon cœur un cœur qui bat.
Bonjour Mali Pradichit, naturopathe.
Bonjour.
Donc vous êtes naturopathe, c'est-à-dire la médecine de complément.
Exactement.
Donc nous sommes avec André Umbraco qui a arrêté de fumer il y a un an.
Oui.
Nous l'en félicitons encore une fois.
Félicitations, un an.
Je me félicite moi-même.
Voilà, il a gardé une superbe voix d'ailleurs. C'est souvent cette voix qu'on a avec le tabac.
Et je vais le mettre beaucoup.
Alors Mali, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plantes qui permettent l'arrêt du tabac en naturopathie?
Il y a plusieurs plantes qui existent qui vont aider la personne qui veut arrêter de fumer ou qui est en train d'arrêter de fumer. Ça va dépendre des symptômes que la personne va avoir. Il y a certaines personnes que ça va être surtout au niveau de l'habitude. Il y en a que ça va être au niveau respiratoire ou il y en a que ça va être au niveau de l'anxiété puis au niveau du sommeil. Donc, la préférée de, qu'on aime bien recommander, c'est la valériane. Parce que la valériane, elle a un effet très calmant. Ça va avoir un effet qui va être relaxant au niveau du système nerveux, mais aussi des muscles lisses, donc les poumons. Mm-hmm. Donc, ça va avoir un effet antispasmodique. Puis aussi, pour le qui est avantageux, quand on consomme la valériane puis qu'on veut fumer une cigarette, le goût de la cigarette est vraiment comme désagréable. Donc, ça va aider à
C'est comme avec certains produits qu'on injecte sous la peau en capsule. Quand on boit de l'alcool, l'alcool a tellement mauvais goût qu'on finit par
Exactement,
plus
oui. Ouais. Donc, d'où les Amérindiens aussi utilisaient la lobélie. Mm-hmm. Qu'on appelle la cigarette indienne, eux la fumaient comme la cigarette pour traiter comme les bronchites ou les problèmes d'asthme. Mm. Puis contrairement à la nicotine, n'a pas un effet de dépendance exactement. Puis en fumant la lobélie, ça donne un très mauvais goût à la cigarette qui nous donne envie d'arrêter tout de suite. Mais il faut faire attention parce que les dosages avec la lobélie peuvent être pas dangereuse, mais peut donner des nausées ou peut donner des vomissements. Là.
Et pour traiter spécifiquement l'anxiété au moment du sevrage, on en parlait avec André, quels sont les produits qui sont les plus importants? À part la valériane, est-ce qu'il y a autre chose?
À part la valériane, il y a aussi les huiles essentielles qu'on peut utiliser, qu'on peut respirer.
Ah, ces fameuses huiles essentielles!
qu'on peut sentir ou même appliquer au niveau du thorax. Il y a le petit grain que j'aime beaucoup qui va aller vraiment calmer le système nerveux.
Le petit grain?
C'est quoi?
Le petit grain bigaradier.
Alors ça?
C'est une huile essentielle qui sent l'orange, qui est comme l'orange amère un peu.
Ouais.
Puis juste en le sentant, ça va nous calmer.
D'accord. C'est un petit peu comme l'eau de fleur d'oranger qu'on mettait sur les oreillers pour les enfants. Quand
mais là, ça va aller spécifiquement travailler au niveau du système nerveux. Ouais.
Très bien. D'accord. Ouais. OK. Parfait. Bon, c'est tout. Et alors, pour améliorer le sommeil, parce qu'en général, on n'est pas bien.
Oui, en effet. Ben, c'est sûr qu'il y a la valériane, mais il y a aussi l'avoine qu'on peut consommer comme aliment, qui va être un calmant du système nerveux aussi. Mm-hmm. Ou sinon, on peut le prendre en tisane. Puis il y a d'autres tisanes aussi, comme la mélisse. Il y a, comme qu'on a parlé tantôt, il y a la lavande aussi qu'on peut mettre en huile essentielle, qui va aider à calmer le système nerveux aussi, puis qui va aider au sommeil.
Mm-hmm. D'accord. Écoutez, tout ça, ça fait... Il faut avoir un grand jardin quand même, hein, parce que...
Oui, mais c'est quoi beaucoup. Des tisanes aussi, là? J'appelle ça des tisanes de ma tante. C'est du tilleul, vendre ça là, dans la pharmacie, c'est très, très courant, là. Ça fait dormir le soir, là.
Ah, ben c'est ça, c'est la valériane ou la cathare, peut-être, ou le...
C'était pas ça, mais ça va me revenir. C'est des problèmes de mémoire.
Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui fonctionnent bien pour le sommeil.
C'est vrai que dans les hôpitaux, quand j'étais étudiant, je faisais des gardes d'infirmiers, et c'est vrai qu'il y avait la tradition dans les services de gérontologie, c'est-à-dire chez les vieux, il y avait le tilleul. Et ça, il y avait pour qu'ils dorment bien, on leur faisait prendre du tilleul.
Ah oui, ça a déjà, à un moment donné, je me souviens, j'étais à Sherbrooke, puis dans ce temps-là, J'avais un studio d'enregistrement, j'avais de l'air straight. Mmh. J'avais une copine qui était une punk, puis on avait été d'une fête. Puis je m'étais habillé en punk. Mais un de mes amis, qui c'est un artiste, il avait dit une fille, tu vois, ce gars-là, il a de l'air straight, mais il est super drôle. Mais avant, on avait arrêté chez les parents, j'avais bu deux tisanes. Écoute, je suis arrivé au party, j'étais dans une chaise, la fille, elle vient me voir, elle dit, ton chum me dit que t'avais de l'air straight, mais que t'étais un gars super le fun. Un, je te regarde, je t'ai bien en point, t'as pas de l'air straight. Puis deux, t'es vraiment pas le fun.
Fait que c'est la tisane qui avait trop calmé,
ah,
c'est
écoute,
ça?
J'étais hyper relax.
Ça a bien fonctionné, vous répondez bien à la tisane.
Ah oui, pas mal.
Mais elle sera peut-être bientôt en vente libre, cette tisane, en juillet, non?
Oui. Je sais pas si ça va avoir les mêmes effets.
Et pour maintenir la motivation, qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a plusieurs choses aussi. On peut prendre du temps pour soi. En fait, quand on arrête de fumer, hein, faut remplacer ces habitudes-là par d'autres habitudes qu'on veut faire, comme par exemple, je vais à l'extrême, là, la méditation, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être du sport ou ça peut être aller prendre une tisane avec ses amis. Mais oui, pratiquer le sport, remplacer ces habitudes-là ou justement... Ou tout simplement prendre un verre d'eau, prendre un aliment qui est bon pour la santé à la place d'aller vers la cigarette.
Ah, c'est une bonne idée. Mm. Et pour diminuer la faim, pour diminuer l'appétit, est-ce qu'il y a des secrets en naturopathie?
Il n'y a pas de secret, mais c'est de bien s'alimenter et de manger une alimentation qui est équilibrée. Donc, des fruits colorés, on recommande des fruits colorés, donc qu'il y a beaucoup de bêta-carotène, des carottes, les aliments, puis qui va aider aussi aux carences que la cigarette a apportées, donc la vitamine C et la vitamine E.
D'accord. Bon. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir nous faire notre marché bientôt et puis...
Il est trop tard, j'ai pris 30 livres, c'est trop tard.
Il est jamais trop tard.
Il est jamais trop tard. Merci beaucoup, Mali Pradidjit.
Ça fait plaisir.
Naturopathe. À bientôt. Au revoir.
Merci.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, I know he's waiting for me. If I could fly way up high, then straight to his arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond the dark soon we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
Alors, nous sommes de retour en onde et comme à chaque semaine, nous parlons d'un livre avec Dr Baruel. Ça va bien, François?
Très bien.
Je me permets, François.
Parce oui, que vous pouvez.
Je n'ai pas besoin d'une prescription tout de suite, mais après l'émission, je vais prendre quelques... Vous allez sortir votre calepin. Alors, le livre dont on parle aujourd'hui, c'est « Tout vous épuise ». Alors, c'est fait par Léonard Anthony. Lui, c'est un hypnothérapeute et un expert en méditation et en yoga depuis 20 ans. Et par Adrien Chaboch, un médecin généraliste et psychothérapeute, un ardent défenseur de la médecine globale et intégrative. et c'est disponible sur édition édito. Il y a plusieurs... Ben, c'est parce qu'on se dit tout nous fatigue. On est fatigué de travailler, fatigué de ne pas trouver le sommeil, fatigué de chercher l'âme sœur, fatigué d'élever les enfants, fatigué de toujours dire oui, d'être disponible. On est-tu fatigué? Et avec le docteur Baruel, nous avons lu pour vous aujourd'hui un chapitre qui s'appelle « Au cœur de la solitude ». Mais c'est intéressant parce qu'ils font la publicité de ce livre ou le marketing en disant « On vit 30 000 jours sur Terre. Y a-tu moyen de se reposer un peu puis d'arrêter de se tracasser avec toutes ces fatigues? » Écoutez, je vous lis quelques lignes de ce chapitre que j'ai trouvé fort intéressant. Alors, « La solitude est vécue comme l'un des pires maux de la vie moderne. Les humains, dans leur très grande majorité, ne sont pas faits pour vivre seuls. Toutes les études menées sur le sujet ont prouvé que l'isolement forcé mène à la dépression, à des comportements autodestructeurs, voire la folie. De même, se sentir seul chez soi ou au sein de son couple est une souffrance quotidienne, lancinante. Tous ceux qui l'éprouvent décrivent souvent le même sentiment de vide et de poids, du silence qui épuise littéralement toutes les ressources. Sortir au restaurant, aller travailler, faire la cuisine, aller au cinéma, tout semble lourd et compliqué. Donc, ce que j'apprends, docteur Baruel, c'est que se sentir seul peut mener à la dépression. Pour moi, c'est une découverte.
La solitude mène à la dépression, oui, bien sûr.
Je savais pas.
Parfois, c'est la dépression qui peut aussi mener à la solitude. Mais la plupart du temps... C'est quand même la solitude qui est un mal qu'on met en exergue, mais qui est très fréquent en maintenant dans notre société, en tout cas. Et la solitude peut être due à... C'est momentané, ça peut être la perte d'un conjoint, mais ça peut être aussi un aspect qu'on juge permanent dans notre vie. Et pour combattre cette solitude, on cherche toujours un modèle. On cherche toujours à essayer de séduire les autres avec un modèle... Un modèle qu'on a pris ailleurs, dans les médias, une vedette ou bien des modèles sociaux. C'est l'efficacité, la productivité, en fait, simplement la justification sociale. Donc on s'appuie sur des choses qui ne sont pas nous-mêmes. Pourquoi ?
Mais quand, souvent, oui. François, lorsqu'on se sent seul, on se sent seul. On ne pense pas à un sociologue, on se sent seul, c'est tout.
On se sent seul, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui corresponde et à qui répondre, et qui réponde. On n'a pas trouvé quelqu'un à qui on va plaire et avec qui on va être bien. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on a une sensation de vide intérieur. On a une sensation d'un manque quelque part. C'est pour ça qu'on essaye de compenser.
Mais c'est ça qu'il y a deux écoles. Parce que les gens vont dire, ben, si tu veux rencontrer l'âme sœur, dont il est clairement, on en parle clairement dans ce livre-là, de chercher l'âme sœur, de trouver l'âme sœur. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a des témoignages. Il y a des cas de figure. Alors, les deux médecins nous parlent de vrais cas et on sent parfois, on s'identifie aux protagonistes. Mais on dit, c'est ça que je trouve un peu la contradiction. C'est qu'on dit, beau rencontrer quelqu'un, essaye d'être bien dans ta peau, cultive ta solitude, remplis-toi, et une fois que tu seras bien dans ta peau, là, tu vas pouvoir t'acoquiner ou être heureux avec quelqu'un d'autre. Or, c'est faux parce qu'il y a une espèce de cercle vicieux. On est bien avec quelqu'un. Il faut être bien avec ça, bien être seul avec soi pour rencontrer l'âme sœur. Mais pour avoir l'âme sœur, si on n'a pas l'âme sœur, on n'est pas bien. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop.
On ne peut pas se remplir tout seul. On se remplit du contact des autres. On ne peut pas se remplir tout seul et ensuite aller vers les autres. C'est comme essayer d'apprendre une langue avec une méthode chez soi, avec un disque, avec un logiciel informatique. Ça sert à quoi ? Pour apprendre une langue, faut aller se noyer au milieu des autres qui parlent la langue qu'on veut parler. C'est exactement la même chose.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur Baruel ?
Ce qu'il faut faire, c'est accepter, se dire, est-ce que j'ai vraiment un vide ? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette sensation de solitude, c'est parce qu'il y a un vide. On n'est pas en communication et en corrélation avec les autres. Donc, il faut accepter de se dire, au fond, ce vide, c'est peut-être rien. C'est peut-être, au fond, le vide que je m'imagine avoir parce que je ne correspond pas aux critères de la société. Parce que je ne suis pas mince, je ne fais pas 1m90 ou que je ne suis pas suffisamment intelligent. Ça n'a rien à voir. Il faut s'accepter tel qu'on sait, c'est-à-dire accepter son vide.
OK.
Et se colter avec les autres, et avec la personnalité des autres, dont on va se remplir.
Et donc, est-ce que ça se peut que... En fait, parce qu'il y a deux choses. C'est les gens qui souffrent de solitude par choix, et lorsque la solitude est imposée. Comme un deuil, une rupture, on se retrouve seul.
Un deuil, une rupture, c'est momentané, si auparavant on n'était pas seul. Par contre, vivre par choix dans la solitude, je ne vois pas, sauf s'il y a d'autres problèmes derrière, je ne vois pas qui va faire ce choix-là, sauf les ermites. Mais je pense justement qu'ils ont des problèmes derrière, à mon avis.
Bon, ben c'est bien. Alors, je répète le titre du livre « Tout vous épuise ». Apprenons vraiment à nous reposer par le Léonard Anthony et Dr. Adrien Chaboch, édition édito. Merci beaucoup, Dr. Baruel, pour
mais je vous en prie, ma chère
nous avoir
Catherine.
Éclairé.
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown, when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol, plus les folles griffonnant je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain, sans clap clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux de faune, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore cette petite mort?
Alors, André Mbriaco, on revient maintenant à vous, vos préoccupations. Nous sommes avec le docteur Baruel, qui est médecin de famille et stomatologue. Vous êtes un homme de 65 ans.
Hein?
Oui.
68?
Ah, oh, ben écoutez, wow. J'ai...
1950, une excellente année.
C'était 65 ans. En fait, c'était 65 ans et plus que je voulais dire.
OK.
En tout cas, bon.
Réduction le mardi à la baie.
À la baie. Écoutez, je me cherche des rouges à lèvres avant. Non, mais écoutez, est-ce qu'on est plus vulnérable au stress lorsqu'on est un homme qui prend de l'âge?
Moi, je dirais qu'on est peut-être plus vulnérable au stress si on est un homme qui... Si on est, surtout si on est un bel homme qui prend de l'âge. Mais c'est un bel homme qui prend de l'âge, tu viens stresser quand tu prends du poids et tout.
Et oui, plus dur sur la chute.
Mais le stress, c'est vieillir, ça se vit comment chez un homme?
Ah, écoute, c'est toujours le stress. Moi, c'est un facteur d'avancement dans la société. En partant, si t'es pas stressé, ça t'es assis dessus. Pour moi, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Dans mon cas, quand je suis tombé à la retraite, j'aime bien le mot « tomber à la retraite », tu t'imagines que le fait d'arrêter de travailler, ta vie va se passer comme ça, comme ça, comme ça, ça va déloyer. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas... Il faut que tu acceptes que la vie va t'apporter d'autres choses, des problématiques et tout et tout. Puis, quand tu te réveilles dans la nuit, puis à un moment donné, t'as une sueur froide parce que tu dis « Hey, je suis rendu vieux », puis le petit hamster part. Bon, ben, tu le laisses aller. m'a retourné me coucher, moi, t'sais. Fait que ça peut se vivre, moi, je dis, ça peut se vivre très bien, mais ça te prend des... Faut le contrôler. Faut avoir des moments d'accalmie.
Et puis, il faut voir des projets.
Ah oui.
Si on a des projets, c'est un moyen justement de contrôler ce stress.
Ah oui, absolument. C'est j'ai toujours été dans mon métier de réalisateur, surtout dans ce métier-là, c'est résoudre des problèmes. Tu as toujours des problèmes à résoudre, du stress. C'est pour ça que je vais aimer le Scrabble, ça apaise mon cerveau parce que il y a toujours un problème à régler. Fait que ça va me satisfaire de cette mécanique-là. Ouais. Comme tu dis, des projets, c'est l'avantage de la vieillesse, c'est de savoir choisir ses projets. Parce que tu sais, en vieillissant, qu'est-ce que tu veux, tu sais surtout qu'est-ce que tu veux pas.
Est-ce que les femmes, selon vous, sont...
belles?
Ouf. Oui, elles sont très belles, les femmes. Les femmes du Canada qui sont à notre antenne, qui nous écoutent.
Une chanson là-dessus. Les femmes du Canada, ils ont du poil aux pattes. Ils ont du poil aux pattes. Les femmes du Canada, ils ont du poil aux pattes comme des soldats.
Oui. Alors là,
musicale.
On va vous engager. Vous êtes un anti-stress extraordinaire. Oh. Est-ce que vous pensez que les femmes de votre âge résistent plus au stress?
Ça, j'en connais depuis... ma tendre enfance, mais j'ai une grande amie, moi, c'est... Puis elle me disait, à un moment donné, on riait, qui me riait avec une de mes amies, eux autres, ils ont des chalets à Saint-Michel-des-Saints, pas d'eau, pas d'électricité. Puis elle me dit, André, c'est la personne que je connais le plus longtemps qui est en vie. Ça fait, là, on s'est aperçu que ça fait au-dessus de 50 ans qu'on se connaît. Cette personne-là, elle a 67 ans. Et Lucie, puis je regarde, elle rayonne, elle va péter de vie. Puis pourtant, dans toute sa carrière, elle était dans l'enseignement avec les élèves les plus difficiles de l'Ouest de Montréal. Elle n'a jamais eu aucun problème, là, ni d'autorité, ni d'enseignement. C'était même le contraire. Foglia avait écrit sur elle, d'ailleurs, une couple de fois. Fait que ça va pas avec l'âge. T'sais, elle est rendue à 67 ans, puis elle rayonne... ça vit bien, tout ça, tandis que je vais avoir d'autres amis que tu lui souhaiterais d'avoir des projets pour rétrécir. Tu sais, il y a des gens qui, en vieillissant, ont l'impression qu'ils rétrécissent, là.
Mais d'ailleurs, André, il y a un très bel exemple aussi de votre belle-sœur qui est un symbole de courage. Votre belle-sœur est un symbole de courage. Elle a été greffée, elle a le diabète. C'est vraiment une femme extraordinaire, une très belle femme. C'est cette femme-là qui a un rapport particulier avec la santé.
Ah, elle, je trouve que c'est une... Tu sais, on entendait ça souvent, des battantes. C'est un battant, c'est une battante. Elle, c'est vrai, là. C'est... avocate, elle va encore travailler, mais c'est 10 heures de dialyse par jour.
10 heures, hein, c'est pas rien. Et c'est une avocate?
C'est une avocate, elle va travailler. C'est épuisant à ce stade-là. Là. Mais, regarde, ça lâche pas. Ils peuvent pas y greffer un autre rein, parce qu'on en a déjà eu une. Fait que, de temps en temps, tu tombes sur une affaire où il y a un nouveau rein artificiel là, qui vient de sortir. Ça peut-tu marcher? Ça marche, tu sais. Mais, tu sais, tu peux pas vivre si t'as pas de machine à côté.
C'est son cas, d'ailleurs, hein?
Ah, ben, oui, oui.
Et ça vous apprend quoi, vous, sur le point de vue personnel, d'être avec cette femme-là? Qu'est-ce que vous... On sent humble? Comment on sent face à des gens qui vivent...
Écoute, tu sais, il y a... Moi, qui est un Italien angoissé à mes heures et tout, tu sais, parce que les Italiens, tout va bien, hein, tout va mal, tout va bien, tout va mal. Elle, tu sais, quand tu sais, des fois, tu te regardes, mais quand j'ai une petite pensée, tu sais, j'ai l'impression que ça va mal, là. Tout j'ai mon char répété, il faut que je m'achète un autre char. Les hosties de finances, c'est du moment que je pense à elle, mes problèmes sont réglés.
D'accord.
Juste le fait de relativiser, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup.
Merci beaucoup, c'est un très beau témoignage. On vous revient après la pause.
Ils mènent une vie sans excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capital santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre désucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge qu'elle combine avec un doux gommage qui restructure en profondeur les macromolécules en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles bien en vue dans le salon? Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit à de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac? Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros. Est-ce ma faute à moi?
Alors, André Ombriaco, vous avez vécu cette émission avec nous. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement au cours de cette émission?
Que mon ami Patrick Babi n'ait pas pleuré. D'habitude, mais c'est parce qu'il n'y a pas de caméra. Sinon,
Sinon il pleure.
Fait qu'à prochain coup, petite caméra, si vous devez le voir pleurer.
Là. Avez-vous appris quelque chose?
Oui, ah non, écoute, c'est absolument intéressant. Puis j'aime bien aussi le... Je savais pas à quoi m'attendre. Je trouve que faites une très bonne équipe, les deux.
Ah, merci.
Ah non, c'est... Non,
j'ai fait une très bonne patience.
Il y a un paquet de connaissances scientifiques qui se promènent, mais c'est... Regarde, là. C'est agréable, là.
Ben, merci beaucoup.
On jurait de voir le soleil dans le studio, même si on est dans le studio. Là.
Écoutez, je vous invite maintenant à poser la question au docteur Baruel. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu poser à un médecin que vous n'avez jamais... oser poser?
C'est toujours le conflit qu'on retrouve là, entre la médecine, mettons, corporative et les médecines traditionnelles chinoises. Je le sais que présentement, au Jewish Hospital, ils font vraiment des tests scientifiques. Là, que c'est pas, puis voir, mettons, exemple, un patient opéré, patient A avec traitement d'acupuncture, patient B sans traitement, voir s'il y a d'amélioration. Vous, est-ce que vous êtes au courant que ça peut se répandre ou...
Je ne suis pas au courant de ces choses-là, de ces études, mais ça me paraît une très bonne chose dans la mesure où il est vrai que c'est très efficace contre la douleur.
Ah oui, oui.
Contre les douleurs de dos, contre les douleurs, enfin, expérience personnelle. Et c'est évident que ça fonctionne dans certaines circonstances. Et ce qu'on est en train de faire probablement, c'est de savoir dans quelles interventions c'est les plus efficaces. C'est le plus efficace l'acupuncture.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Versus la morphine et autre chose. C'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir supprimer des médicaments et d'utiliser des techniques qui sont finalement assez anciennes, c'est vrai, et qui fonctionnent.
Pourquoi pas
le faire, c'est sûr. Hein. C'est, de toute façon, je pense qu'il y a une ouverture en général pour toutes ces choses-là. C'est qu'en France, par exemple, il y a l'homéopathie qui est reconnue et remboursée par la Sécurité sociale.
Ah oui, l'homéopathie.
L'homéopathie, alors qu'on fait, on sait que c'est l'effet, pour le moment, on n'a jamais fait d'études réellement parce qu'il n'y a jamais eu de la possibilité de le faire et puis les homéopathes n'ont pas voulu le faire, mais c'est au moins l'effet placebo.
Ah oui.
Et finalement... c'est vraiment pas dangereux, l'homéopathie. Ça coûte pas cher, c'est pas dangereux. Donc c'est top. Donc l'acupuncture, je la mets pas au niveau de l'homéopathie, parce que je sais que ça fonctionne, mais c'est très intéressant de savoir sur quelle opération, sur quelle maladie, et à quelle fréquence, et quelle posologie, finalement.
Ah hein? Oh oui, j'ai déjà vu, j'ai un frère qui, c'est pas un peace and love, là, c'est un docteur en neurobiologie, puis il est acupuncteur aussi. Lui, il étudiait avec des Chinois, et c'est des fois, il y avait un cabinet qui était avec des médecins en face de l'hôpital Fleury. Et il y a des fois, il y a des vieux monsieur qui souffraient là, pour les hémorroïdes. La secrétaire allait le chercher. Elle disait, M. Briaco, faut venir. Fait qu'elle regardait. Elle disait, veux-tu que je te soulage pour 10 piastres? Ah oui, oui. C'est une aiguille placée à une place au cerveau. Puis là, le petit vieux disait, Ah ben, je suis une petite fraîche. Et tu regardes qu'est-ce que je peux faire pour 50 piastres. Je sais pas, peut-être dans les sociétés à venir, quand le Québec sera riche et indépendant, que ça va être couvert par les frais. Mais ça, d'ailleurs, ça va être une de mes promesses, mais que je me présente premier ministre.
En parlant de questions, n'oubliez pas que, gens du public, vous pouvez nous adresser des questions santé par courriel à canalm@commercialvuesetvoix.com ou même par le biais des réseaux sociaux.
Merci beaucoup, André Ambriaco.
Hey, c'est moi qui vous remercie. C'était hyper agréable. 7 heures a vite passé. Dites-vous merci, M. Baby.
Merci, monsieur, madame, de m'avoir invité.
C'est comme ça que ça parle, les génies. Ah,
merci alors à notre chroniqueuse et aux invités qui nous ont donné la parole et aussi parler de santé. Je remercie Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, à Mali Pradichit, naturopathe, et aussi Patrick Babi du club Mensa et du 999 Society pour avoir parlé de douance avec nous. Merci docteur Baruel.
Mais il faut le rappeler que cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien à la liberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon et Benoît Rassette à la recherche et à la réalisation.
Qu'on se le dise, peu importe nos facultés, le reconnaître avec du cœur, c'est bon pour la santé. Ici Catherine Bourderon
et Dr. François Baruel.
C'est bon pour la santé.